C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
J'en profite également pour vous rappeler que c'est aujourd'hui qu'il est possible d'aller saluer notre ami, collègue Paul Hood. Cette cérémonie, chapelle ardente, aura lieu au Planétarium de Montréal. Donc, ce sera accessible de 10h ce matin jusqu'à 14h et puis en après-midi de 15h à 19h. Et demain, les funérailles de Paul auront lieu pour la famille et quelques invités. Je reviens grosso modo sur la journée d'hier, parce qu'on a encore des séquelles ce matin et au-delà de 50 000 clients de Hydro-Québec qui sont toujours privés d'électricité. Et c'est un peu gênant que 24 heures après, il y a encore autant de gens, principalement dans les Laurentides, qui soient privés de courant. Tout ça est le fruit, bien sûr, de la météo. Il y aura toujours des pannes, il y aura toujours de la neige pesante, lourde, qui va affecter les câbles, les fils, en fait, du réseau de transport, de distribution, pardon. Mais c'est le fruit de négligence depuis des années. Ça fait des années qu'on a sous-investi dans les opérations d'émondage, qu'on n'a pas entretenu la végétation autour des installations de Hydro-Québec. Et malheureusement, on en paye le prix. J'ajoute également, parce qu'il y a des gens qui m'ont fait parvenir des photos de poteaux qui sont sur le point de tomber. Et pas que du côté de Hydro-Québec, mais chez Bell, par exemple. Puis je peux vous dire qu'il y a des citoyens qui tentent désespérément d'alerter Bell sur l'état des poteaux. Quand je vois les photos, là, et que c'est comme grugé à la base, tu te dis que c'est une question de temps avant qu'on se retrouve avec des poteaux qui tombent. Surtout quand on regarde les conditions météo. Première chose ce matin. Deuxième, les opérations de déneigement et les opérations d'épandage d'abrasifs. La Ville de Montréal nous annonce qu'on ne va pas procéder aux opérations de chargement de neige et qu'on va laisser fondre la neige. La Ville a raison. Parce que vous regardez la météo, ça va fondre tout doucement dans les prochains jours. Ce serait du gaspillage que de lancer une opération qui, de toute façon, se déroulerait pendant qu'il fait soleil et 10 degrés. Par contre, hier, la Ville de Montréal l'a échappé. Et c'est pas normal qu'on se soit retrouvé avec des rues glissantes, des rues où il n'y avait pas eu d'épandage, les gens d'urgence santé qui devaient manœuvrer, beaucoup d'appels en passant hier, et le temps de réponse était affecté par, justement, l'état de la chaussée. Il y a un débat à la Ville de Montréal entre, je dirais, la Ville-Centre et les arrondissements. Parce que c'est quoi la réalité à Montréal? Il y a des arrondissements qui font une job pas pire. Il y en a d'autres, c'est une catastrophe. De tempête en tempête. Les trottoirs sont mal entretenus, la chaussée demeure glissante, et on peut dire que dans certains coins de l'île de Montréal, c'est mieux, dans d'autres, c'est une catastrophe, comme je le disais. Là, la Ville a présenté hier sa nouvelle stratégie. Ils sont pas capables d'être transparents puis de dire la vérité aux gens. C'est que ça coûte trop cher, les opérations de déneigement. Puis là, on nous dit, au nom de l'efficacité, on va étirer ça sur 4 jours au lieu de 3. On se donne des pouvoirs, je peux imposer des opérations dans certains arrondissements. C'est pour nous endormir avec cette espèce de discours de la bureaucratie. La Ville n'a pas l'argent pour rendre le service ou fait le choix de ne pas rendre le service. On paye des taxes, mais on n'a pas le service. Et si Valérie Plante le disait clairement, ben au moins ça aurait le mérite d'être transparent, ce qui n'est pas le cas. Et hier, on avait l'opposition, aujourd'hui je vais recevoir quelqu'un du comité exécutif, justement pour débattre de ça. Parce que ça n'a aucun sens que hier, prenons juste la journée d'hier, il n'y ait pas eu des opérations préventives devant une immense bordée de neige. Là, c'est plus de 25 cm et c'était prévu, c'était annoncé. Ça veut dire que la Ville a fait le choix de ne rien faire hier en matinée et durant la nuit, ou pratiquement ne rien faire. Quand j'ai des entrepreneurs qui me disent qu'ils avaient de l'équipement prêt et que la Ville ne les a jamais appelés, c'est un choix. C'est un choix budgétaire et c'est également un choix politique. Alors voilà pour ce qui est du volet météo ce matin. Et puisqu'on est dans la réalité des villes, il y a cette étude de la Société canadienne d'hypothèques et de logements qui nous montre très clairement. Et regardons le marché de Montréal, que pour les prochaines années, les 3 prochaines années, c'est une augmentation importante des loyers. Pourquoi? Un peu de construction, mais pas assez. et aussi une demande qui est de plus en plus forte. Donc, si vous êtes des jeunes, que vous rêvez d'une propriété, va falloir faire des économies relativement tôt dans votre vie. Ça va vous prendre du soutien parce que ce sera pratiquement impossible. Et rappelons que la génération des plus jeunes, c'est celle qui probablement va hériter de sommes extraordinaires, mais quand ils auront l'âge de 40, 50 ans, bref, quand leurs parents vont décéder. Et le prix du logement, c'est des augmentations prévues facilement de 100, 150 par mois. Là. Et là, on parle d'une moyenne, alors que je voyais hier des commentaires de nos auditeurs qui magasinent des logements, qui cherchent des appartements. Et c'est pratiquement impossible de trouver quelque chose d'abordable, puis même de trouver quelque chose tout court. L'autre truc, ça concerne la ville de Laval et l'achat rapporté cette semaine de véhicules pour le service de police. Le maire Boyer, qui est toujours très actif sur les réseaux sociaux, fait la tombe, là. Et impossible de savoir exactement combien de véhicules, combien ça coûte. Non seulement les véhicules, mais l'aménagement, l'installation de bornes et à qui ça sert. J'ai toutes sortes d'échos de Laval et ça m'apparaît le genre de dépenses déconnectées encore une fois. Ce sont des véhicules puissants, Ford Mustang, véhicules électriques. Certains de ces modèles coûtent plus de 100 000 $. Le journal disait que le directeur du service de police l'a utilisé. Alors, question, est-ce que ça sert pour la patrouille? Est-ce que ce sont des véhicules pour les cadres du service? J'ai pas de réponse parce que la ville ne veut pas donner de réponse. Et un jour, il va sortir du terrier, puis il va bien voir la lumière du soleil pour essayer de venir apporter un peu d'éclairage sur ce type de dépenses. Parlons de l'éclipse. On en a beaucoup parlé, on va en parler pas mal à compter de lundi matin. Je veux pas revenir là sur la saga des écoles, les nombreux virages, les changements de cap. Même c'est rendu là que, je prends le cas du Journal de Montréal ce matin, t'as une nouvelle qui dit que l'éclipse ne fait pas peur à une école. Et là, on cite le travail des enseignants qui préparent les enfants pour la journée de lundi. Mais un collègue ici m'a fait parvenir une note qui était intéressante. Il y a deux enfants. Un qui est au secondaire, puis l'autre qui est au primaire, et qui se sont fait montrer un documentaire pour préparer les enfants, donc, à l'éclipse de lundi. Et dans ce documentaire, on raconte l'histoire d'un rappeur qui aurait regardé le soleil pendant l'éclipse et qu'il aurait eu par la suite des problèmes de vision. C'était en 2017 aux États-Unis. Or, ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle une vraie fake news, là. Pourquoi? Parce que quand cette histoire-là est sortie, et le rappeur s'appelle Joey Bada, les photos qu'on voit de lui, et Radio-Canada avait fait un papier là-dessus, il porte ses lunettes de protection. Et il a annulé effectivement des spectacles qui étaient prévus et c'était le prétexte officiel. Or, même si on n'a pas la preuve absolue, il aurait cherché un prétexte, une raison pour annuler ses spectacles, puis il a trouvé cette raison-là. Alors, est-ce qu'il voulait faire une farce quand il a parlé de problèmes de vision? Mais tout ça pour vous dire que c'est inventé. Puis tout ça pour vous dire qu'on présente ça dans les écoles. Alors, tu sais, des fois, c'est pas bête de faire une vérification avant de, justement, présenter ça à des jeunes, puis leur dire, voici, là, puis ça va leur faire peur, on va leur montrer, puis si vous regardez le soleil, regardez ce qui est arrivé au rappeur. On sait que c'est dangereux. Les docs l'ont dit, les spécialistes l'ont mentionné à plusieurs reprises. Pas certain qu'on a besoin de ce cas qui n'est pas un cas véridique. Parlons maintenant de l'Ozempic. Pourquoi? Bon, on le sait tous, c'est un médicament extrêmement populaire au point de créer rupture de stock dans bon nombre de pharmacies par épisode au Québec. Alors, c'est un traitement qui est utilisé pour aider les gens qui souffrent de diabète de type 2 et aussi c'est utilisé pour des gens qui veulent perdre du poids. Quoique, il n'y a pas cette recommandation précise et c'est pour ça que c'est pas couvert par la RAMQ quand c'est prescrit pour la perte de poids. La presse a fait une enquête et comme tous les médicaments, ou presque, c'est relativement facile de trouver un marché secondaire, plus ou moins légal, ou encore carrément d'acheter des produits qui sont vendus sur le marché noir. Je vous le dis par expérience, vous pouvez trouver à peu près n'importe quoi. Donc, dans le cas de l'Ozempic, c'est assez hallucinant de réaliser ce matin qu'il y a un site au Québec qui s'appelle LiveWell et qui prescrit l'Ozempic à des gens sans consultation avec un médecin, pas de consultation au téléphone, pas de ce qu'on appelle des visioconférences, rien. vous remplissez un questionnaire et vous pouvez dire à peu près n'importe quoi dans le questionnaire. Et l'exemple qui est cité dans la presse ce matin est intéressant. C'est que on vous fait remplir, par exemple, on vous amène à répondre à des questions sur votre taille, votre poids. Puis là, on vous dit, ben finalement, vous êtes pas le type de patient qu'on recherche, donc on peut pas vous le prescrire. Et là, on vous pose la question, êtes-vous bien certain d'avoir rempli correctement les cases? Et là, t'augmentes le poids, par exemple, vous dites, ah, là, c'est correct. Puis vous allez recevoir, en quoi, 48 heures environ, l'Ozempic. Et c'est une infirmière qui fait l'analyse du questionnaire et qui envoie la prescription. Et là, je regarde ce matin les réactions, donc, du Collège des médecins, de l'Ordre des infirmières et infirmiers. Puis là, on rappelle que tu peux pas faire ça, que c'est interdit. Il y a une question de déontologie. Il faut voir le patient. Et c'est pas prescrit n'importe comment. Sauf que quand vous avez un médicament qui est extrêmement populaire, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont vous offrir des voies rapides et plus ou moins sécuritaires. Même si on fait toutes les mises en garde, si vous avez des symptômes, des effets secondaires, ça va pas, allez consulter votre médecin. Mais vous lirez ça ce matin, c'est quand même assez intéressant. Et puis, il y a une autre étude qui va sortir samedi dans un congrès à Paris de médecins spécialistes sur le cancer de la prostate. Et la conclusion, c'est qu'avec le vieillissement de la population puis le style de vie, on prévoit une hausse fulgurante du nombre de cas de cancer de la prostate et aussi une hausse assez importante de gens qui vont décéder du cancer de la prostate. Et il n'y a pas véritablement de solution miracle, c'est un constat. Il y a toute la question de la prévention, des tests de dépistage. Mais le cancer de la prostate, qui peut évidemment être fatal, mais qui dans d'autres cas, chez les personnes plus âgées, va leur permettre de passer leur vie avec, bon, des inconvénients, c'est sûr, mais comme me disait un médecin, ils vont peut-être mourir de d'autres choses parce que le cancer va évoluer très lentement. Parlons un peu de tourisme. Les îles de la Madeleine qui imposent une taxe de 30 $, c'est à compter du 1er mai, et c'est un maximum de 100 $ par famille. Pourquoi? Essentiellement pour payer les infrastructures touristiques. Et on sait que, d'abord, il y a une petite population aux îles, puis on salue les Madelinos qui nous écoutent, on sait, vous êtes nombreux par Internet. Et il y a des factures avec l'érosion, par exemple, des terres, des infrastructures à aménager. Et les Madelinos qui ont débattu de ça pendant plus d'un an, et demi, disent, ben finalement, il y a beaucoup de tourisme, c'est sur une courte période, alors, comme on le voit ailleurs dans le monde, des villes comme Venise qui peuvent imposer ce genre de taxes, c'est 30 $. J'ai eu des courriels là-dessus de gens qui sont des amants des îles, qui sont absolument, je dirais, ravis, parce que c'est pas 30 $ qui va faire en sorte que tu n'iras pas aux îles. Puis j'en ai d'autres qui disent comment ça se fait qu'entre Québécois, on peut pas être solidaire. Ben justement, c'est peut-être une taxe pour être solidaire et pour aussi faire en sorte que ce coin de pays puisse absorber cette masse de touristes qui débarquent. Puis là, il y a toutes sortes d'exceptions là. Pour les gens qui y travaillent, mettons, le travail saisonnier. Autrement dit, c'est une taxe qui va s'appliquer à partir du 1er mai, donc je le disais, et pour les séjours de 24 heures et plus. Et là, vous allez devoir, il y a une petite mécanique, là, aller chercher un code-barre, payer le 30 $, puis si vous payez pas, puis tu sais, on peut pas sauver des îles trop facilement, hein, c'est l'avion ou ben non, c'est le bateau. Alors, il y a des mesures qui peuvent aller jusqu'à des amendes de 1 000 $. On va parler avec le maire des îles de la Madeleine un peu plus tard ce matin. Et puis, Aéroport de Montréal qui a annoncé hier son plan d'investissement pour les prochaines années, et c'est sur le thème de la fluidité. On va se le dire, l'accès à l'aéroport de Montréal est d'une complexité. Ce que je ne savais pas, c'est qu'on évalue qu'à peu près 25% des automobilistes qui se dirigent vers la rampe qui mène à la section des départs, qui tournent en rond parce qu'ils attendent quelqu'un, par exemple, ou qui viennent chercher quelqu'un. Et là, c'est des gens qui, évidemment, créent cette congestion. Alors, pour pallier à ça, dès cet été, avant de tout refaire, Aéroport de Montréal prévoit donc l'ouverture de débarcadères supplémentaires. Les automobilistes pourront déposer des passagers. Si vous n'allez pas au débarcadère principal, vous aurez le secondaire, puis des navettes qui vont vous amener directement à l'aéroport et on pense que ça va permettre justement de pouvoir améliorer la fluidité. Ce sera gratuit pour les 40 premières minutes. Et là, j'ai hâte de voir ça cet été parce que, évidemment, le président d'Aéroport de Montréal est peut-être un peu jovialiste. Les bagages qui s'empilent, les bagages perdus, ce serait chose du passé. Ça s'est amélioré un peu, mais pas tant. Le temps d'attente au poste frontalier, ça, disons, ça peut être assez long, surtout quand vous arrivez, genre 4 heures. Et tout le monde arrive d'Europe vers 4 heures l'après-midi. Tout le monde arrive de certaines destinations en fin de journée. Et là, ça refoule. Et ça refoule en haut des marches. Et les indications sont habituellement assez nulles. Mais là, on nous promet qu'avec la concertation, tu sais, les parties prenantes, hein, on va sortir le vocabulaire ce matin, ben que là, les transporteurs aériens, tout ça va être plus fantastique. Le seul obstacle qui est reconnu, c'est que compte tenu du nombre croissant de vols, il y a de plus en plus de gens qui vont devoir transiter du terminal par des autobus ou encore les fameux transbordeurs vers les avions. Alors ça va amener un certain trafic sur les pistes au cours de l'été, surtout qu'on prévoit quand même beaucoup de vols durant la saison estivale. Il y a le gouvernement du Québec qui a gagné contre Jean Charest. Jean Charest qui réclamait 700 000 $ et plus là dans le cadre de ses poursuites contre le gouvernement puis des fuites qui entourent l'UPAC. Monsieur Charest disait que le gouvernement du Québec, le procureur général, pour être plus précis, avait utilisé des tactiques pas très jojo, pas très catholiques, pour retarder la transmission de certains documents. Le juge a dit non, il n'y a pas de preuve de ça. Monsieur Charest avait déjà gagné un montant de près de 400 000 $ justement en raison de la fuite des documents de l'UPAC. Ça, c'est le volet qui concerne Jean Charest. Je rappelle que nous sommes toujours dans l'attente des conclusions de l'enquête du BEI qui dure depuis plus de 5 ans concernant justement les fuites. Comment se fait-il que des médias d'information se sont retrouvés avec autant de détails sur l'opération qui visait Jean Charest et d'autres? Ça fait plus de 5 ans. Je vous rappelle aussi qu'on nous a dit que le rapport était en rédaction, phase finale, et que ce sera remis au DPCP. Une enquête qui concerne des fuites, là. C'est pas une histoire méga complexe de fraude. Comment ça se fait que ça prend autant de temps? D'ailleurs, tout prend du temps au Québec. Desjardins, on le sait pas plus, ce sont des enquêtes qui piétinent, qui tournent en rond, en tout cas qui durent depuis des années. Et puis sur la scène internationale, Jean-François Lépine sera avec nous tantôt. On va bien sûr parler de ce qui se passe à Gaza. Radio-Canada est allé chercher des infos ce matin qui tend à démontrer qu'Israël utilise l'intelligence artificielle pour identifier les cibles humaines avec des ratés importants, comme on l'a vu, concernant justement ces travailleurs humanitaires, ce qui a un peu paralysé l'aide alimentaire sur le territoire de Gaza. Joe Biden a pris le téléphone, a appelé le premier ministre israélien pour lui dire « il faut protéger mieux les civils, mieux les travailleurs humanitaires ». Et là, Israël a décidé d'ouvrir un certain nombre de corridors additionnels et permet d'être plus vigilant. Donc, on va en reparler avec Jean-François. Et puis, il faut évidemment souligner ce matin les 30 ans du génocide au Rwanda. Je sais qu'il y a beaucoup de membres de la communauté rwandaise à Montréal qui sont des auditeurs, qui m'écrivent régulièrement. Et puis, Jean-François a également ce sujet-là au menu ce matin.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Le cégep Saint-Laurent oblige les étudiants, les étudiantes à acheter une passe pour le transport en commun. Ils n'ont pas le choix parce que c'est intégré directement à la facture qu'on doit payer. Ça s'adresse aux étudiants de formation régulière inscrits à temps plein, qu'ils soient intéressés ou non à obtenir la passe, que ce soit utile ou non pour eux. Anne-Marie est étudiante au cégep de Saint-Laurent. Elle est avec nous donc ce matin. Anne-Marie, bonjour.
Bonjour.
Peut-être nous raconter un peu comment tout ça est arrivé pour les étudiants du Cégep Saint-Laurent.
Oui, bien sûr. Ben, dans le fond, dans un premier temps, on reçoit un courriel le 12 mars qui nous dit que la carte Opus, c'est une carte écologique, ben pas écologique, mais une éco-puce qu'on appelle, Puis, c'est ça, cette carte-là serait disponible à 55 $ par mois pour tous les étudiants avec les zones A, B, C, D, E. Puis après ça, il y a un lien pour un formulaire pour donner notre avis sur cette carte-là. Fait que c'est à première vue, ça a l'air d'être une bonne aubaine pour tout le monde. Mais moi, personnellement, je regarde ça. Moi, je n'utilise pas le transport en commun pour le moment. Puis, tu sais, j'ai juste pas cliqué sur le formulaire parce que je me disais, ben, j'en ai pas besoin. Fait que je laisse ça aller. Puis ensuite, ben, tu sais, premièrement, le formulaire était ouvert 8 jours. C'était du 12 mars au 20 mars. Fait que ça laissait pas trop le temps de laisser son opinion sur le formulaire aussi. Puis c'est ça. Après ça, on a reçu un courriel disant que c'était accepté à 95% des étudiants, puis que c'était applicable à tous et non remboursable comme que t'as expliqué au début. Fait que c'est toute qu'une surprise parce que comme que j'avais dit, c'était un peu trompeur au début, surtout que c'était un courriel par milieu. Fait que c'est pas un sondage obligatoire. Fait que c'est ça, c'est assez surprenant.
Et là, le montant qui est facturé, c'est 276,25.
Oui, exactement.
Et ça s'ajoute directement à la facture là, des frais que vous devez payer à chaque session.
Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, si mettons, moi, je voudrais continuer à la session d'automne, ben, il faut absolument que je paye le 276 supplémentaire pour une facture totale de 460 par session.
Que vous soyez ou pas utilisatrice du transport en commun, c'est obligatoire, c'est automatique.
Oui, c'est ça. Je pourrais marcher à l'école, je pourrais être en résidence, à vélo, je pourrais faire du covoiturage, n'importe quoi, c'est obligatoire.
Comment c'est reçu par les étudiants?
Dans le fond, j'ai été dans une assemblée générale étudiante cette semaine, puis je te dirais, la salle était pleine, pleine de personnes qui n'en voulaient pas, qui étaient justement en résidence, même du monde qui était pour la carte en voulait pas, parce qu'ils disaient, ben là, je pensais pas, tu sais, faire ce fardeau-là à tout le monde, puis des fois, il y a du monde qui votait sans vraiment savoir que ça allait être facturé tout de suite. Fait qu'en tout cas, c'était pas trop clair. Il y avait beaucoup d'opinions, puis il y avait beaucoup aussi de personnes qui disaient que ça les avantageait pas en auto. Si, mettons, moi, par exemple, ça me prendrait 1h45 en transport en commun ou 30 minutes en auto. Fait que, moi, j'essayais d'économiser le plus de temps pour justement travailler et étudier. Fait que ça m'avantage pas du tout. Mais sur ce point, dans le fond, ils ont rajouté un formulaire de désistation, mais c'est très, très limité. C'est limité, dans le fond, aux personnes qui ont des handicaps. C'est limité aux personnes parents. Puis sinon, il y avait un autre point. Ah, aux personnes qui habitent, dans le fond, dans une zone que le transport en commun n'est pas vraiment adapté.
OK. Il y a une possibilité de s'en sortir, mais ça, c'est très, très limité d'une part. Puis ce que je comprends aussi, c'est qu'il faut le prouver là qu'on appartient à une des catégories.
Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, j'ai le formulaire devant moi. C'est en plus qu'il faut rentrer dans les catégories, il faut donner des pièces justificatives qui devront être analysées. Fait que t'as des bails, des relevés d'impôts, des relevés d'hydroélectricité. Fait que je trouve ça très intrusif de devoir autant se justifier pour de quoi qu'on n'a réellement pas besoin pour plusieurs personnes. C'est d'habitude, on voit ce genre de trucs-là, dans le fond, quand on veut acheter de quoi, mais là, on veut pas l'acheter, on veut l'enlever. C'est assez spécial.
Merci beaucoup, Anne-Marie, d'avoir pris le temps de nous écrire et nous parler ce matin. Avec nous maintenant, Mme Danielle Malkazoff, qui est directrice des services aux étudiants et des communications au Cégep Saint-Laurent. Mme Malkazoff, bonjour.
Bonjour, monsieur Arthur.
Vous me confirmez ça, là. C'est automatique, c'est sur la facture qui est envoyée aux étudiants, c'est 276,25.
Effectivement, c'est une facture. Je peux vous dire un peu l'origine, d'où ça vient, pourquoi on fait cette demande. En fait, on est très conscient maintenant. C'est une demande, c'est une initiative qui vient d'un groupe d'étudiants qui était venu nous voir parce que au collège, c'est une valeur qui est assez importante, là, l'environnement. Puis on se disait avec les étudiants aussi que la crise climatique, on sait que les efforts individuels maintenant, là, c'est plus suffisant. Fait qu'on voulait faire un effort qui était plus collectif, qui était commun. Donc, cette initiative-là existe déjà à Sherbrooke, à Trois-Rivières et à Saint-Hyacinthe. Des groupes d'étudiants sont venus nous voir et nous dire « Est-ce que ça serait possible à Montréal d'avoir la même mesure? » Nous, on a communiqué avec la ACM, puis on a vu que c'est un projet pilote. qu'on est en train de mettre en place au Collège de Saint-Laurent. Mais effectivement, c'est un moyen collectif, c'est une pour tout l'ensemble des étudiants.
OK. D'abord, les étudiants ont voté. Il y a combien d'étudiants qui ont voté? Là, ça a été approuvé à 90-95%, je pense. Là. Mais il y a combien d'étudiants qui ont voté?
Comme je disais tout à l'heure, puis j'ai rencontré Anne-Marie, on s'est parlé cette semaine, les deux. On a envoyé le formulaire à tous les étudiants. Il y a 1006 étudiants sur environ 3300 étudiants qui ont répondu au formulaire. Sur ceux-là, je voudrais les chiffres exacts, là, je les ai en quelque part. Il y en a 950 qui ont voté pour, puis 50 qui ont voté contre. Donc, ça donne un bon 95% d'étudiants qui sont en faveur. Et je vous dirais que majoritairement au collège, les étudiants sont en faveur. C'est vrai qu'Anne-Marie dit qu'il y a eu une assemblée générale mercredi. La salle était pleine. C'est une salle de 140 étudiants. Donc, il y avait 140 étudiants. Et majoritairement, les étudiants qui étaient là, c'était des étudiants qui étaient en désaccord. Mais je vous dirais que c'est une belle mesure puis que la majorité des étudiants...
Bien ça, vous le savez pas, c'est la majorité. Il y en a 1000 qui ont participé. Mettons qu'il y en a... Je vais faire un chiffron, il y en a 1000, mais il y a 3300 étudiants. On s'entend que...
Il y a 30% environ des étudiants qui ont participé au sondage.
Oui, mais là, c'est le sondage, c'est une chose. Mais sérieusement, je comprends l'intention, là. Mais d'imposer à tous les étudiants, que ce soit des étudiants qui soient à côté, qui prennent l'auto pour toutes sortes de raisons, qui sont en vélo, faut que tout le monde paye, même si je l'utilise pas.
Ben c'est pour ça que je vous dirais que c'est dans les droits de toute autre nature que les collèges peuvent se charger à leur guise. À Saint-Laurent, on a toujours été dans ceux qui avaient les droits les plus bas, donc. Il y a des services pour lesquels les étudiants paient et qu'ils n'utiliseront pas. Là,
non, mais attendez, là, c'est 276. Là, c'est pas une cotisation de 40 $ ou de 50 $ là.
Je suis d'accord, M. Arcand. Et quand Anne-Marie disait tout à l'heure qu'on demandait des formulaires, on a quand même ouvert après avoir discuté avec les étudiants. Puis là, c'est un peu malheureux parce que mes discussions avec l'association étudiante ne sont pas terminées à ce sujet-là. On se rencontre la semaine prochaine pour faire le point. Fait qu'il y a encore des discussions qui vont avoir lieu avec les étudiants. Mais c'est pour ça qu'on a ouvert à certaines exemptions. Puis quand Anne-Marie disait tout à l'heure qu'on va demander des formulaires, ce sera pour des étudiants parce qu'on a dit qu'on va faire aussi des accommodements pour le paiement. Pour certains étudiants, pour qui ce sera difficile.
Oui, mais Mme Alcazov, là, je vous donne un exemple. Là. Quelqu'un qui va au cégep en vélo, est-ce que vous pouvez l'exempter de payer ce montant-là?
Ben, écoutez, pour le moment, il ne fait pas partie des exemptions qui sont dans ceux qu'on a fait. Comme
OK. Je disais, quelqu'un qui va à pied au cégep, qui habite à côté dans une résidence, peu importe, là, il se déplace à pied. Est-ce que vous pouvez l'exempter?
Comme je vous disais tout à l'heure, nos discussions ne sont pas terminées encore avec l'association étudiante. Moi, je vais rencontrer la semaine prochaine les étudiants qui ont été mandatés lors de cette assemblée générale-là. Pour en discuter. Fait que c'est un peu drôle de me retrouver comme ça à la radio ce matin quand les discussions ne sont pas terminées avec les interlocuteurs qui sont officiellement.
Ben, madame. Ouais. Mais madame Alcazar, je vous dirais que c'est un peu drôle de l'imposer à l'ensemble des étudiants que c'est inclus dans la facture sans avoir poussé la discussion et la réflexion plus loin avec les étudiants.
Ben, vous m'excuserez, M. Arcand, mais la discussion a eu lieu avec les étudiants de l'association étudiante. Là, ça fait un an qu'on en parle et qu'ils sont en accord.
Et vous n'avez pas pensé à ces modalités dont vous discutez actuellement pour les gens qui sont à pied et à vélo?
Écoutez, on a pensé à certaines. Effectivement, il y a peut-être des angles qu'on n'a pas couverts. Puis c'est pour ça qu'on est très, très ouvert à rencontrer les étudiants et à voir avec eux. Il y a peut-être des angles qu'on n'a pas vus. Ça, je suis tout à fait en accord avec vous. C'est un projet pilote qu'on veut lancer, qui vient d'une initiative étudiante, encore une fois, puis c'est là où on en est rendu pour l'instant.
Mais personnellement, là, je trouve l'initiative intéressante d'offrir des passes moins chères. Vous allez me dire, là, c'est une question de volume, là. Mais d'imposer à des gens qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas à utiliser le transport en commun parce qu'ils se déplacent à pied, en vélo, sont en covoiturage... Puis, on parle d'un montant de 275 $ pour des étudiants. Je trouve ça un peu abusif, pour tout dire.
Oui, mais je vous dirais que ça fait une facture de 459 $ pour étudier au cégep de Saint-Laurent, où tu vas avoir des cours, un paquet de services et en plus une passe étudiante pour 5 mois. Ça peut-être vous sembler énorme. Effectivement, c'est beaucoup d'un seul coup. C'est une grosse augmentation d'un seul coup. On en est tous d'accord avec ça. Mais comme je vous disais, on a ouvert à des exceptions, on ouvre à des accommodements pour le paiement. On a retardé la date pour payer les frais. On a enlevé la pénalité qu'il y avait avant lorsqu'un étudiant payait en retard. Et on est ouvert pour accommoder des étudiants.
Les accommodements raisonnables.
Ben, effectivement.
OK.
Comme je vous disais, je veux juste vous dire que c'est vraiment, comme on disait, la crise climatique, l'environnement, c'est une valeur très importante pour le de fin d'année.
On est tous d'accord avec vous. Là. L'idée, c'est pas ça. Là. L'idée, c'est pas de dire que c'est important, pas important, est-ce qu'il faut les sensibiliser. Il y a personne. Le débat est pas là. Le débat, c'est de dire, vous décidez, à ma place, de m'imposer une facture de transport en commun que j'utilise pas.
Ben écoute, c'est comme plusieurs frais où c'est tout le monde paye puis on l'utilisera peut-être pas, mais comme je vous dis...
Mais c'est 275$. C'est ça mon point.
On
c'est pas...
Puis je vous dirais qu'à présent, le formulaire pour avoir des accommodements pour le paiement et des exemptions qu'on a lancé cette semaine, on n'en reçoit pas des tonnes. Ça va tout être analysé.
Ben, je comprends, c'est limité assez pas mal à un nombre restreint, là, non?
Ben, les accommodements pour le paiement ne sont pas limités.
Non, pas pour le paiement, pour l'exception.
Ben, peut-être que certains étudiants qui auront à l'apprendre et qui auront de la misère à défrayer les coûts viendront nous voir et ils vont chaque demande va être analysée une par une, ça c'est certain.
Parfait, merci d'avoir été avec nous.
Merci, bonne journée.
Bonne journée. Danielle Malkassoff est directrice des services aux étudiants et des communications du Cégep Saint-Laurent. En conclusion, on comprend l'idée, on comprend l'initiative. Je trouve ça assez spécial quand même que de facturer 275$, pas une contribution de 20, 30, 40, 50, 275. Et il y a des gens, puis là on va voir les accommodements qui vont finalement découler de tout ça, mais il y a des gens qui n'utilisent pas le transport en commun pour toutes sortes de raisons. Ils sont pas loin, ils sont à pied, ils viennent en vélo, il y a du covoiturage, ils ont besoin de l'auto, je veux dire, c'est pas encore interdit là de circuler en auto. Puis c'est plus que... C'est une grosse augmentation pour les étudiants. Puis tu sais, de payer pour quelque chose dont tu n'as pas besoin, un montant de cette ampleur-là, nous verrons les accommodements raisonnables.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Parler de la neige qui est tombée hier, les opérations dans les rues de Montréal, puis de façon plus globale, ce qui risque de se produire probablement pour la prochaine saison, avec Maya Vodanovic, qui est la responsable de la concertation avec les arrondissements. Madame Vodanovic, bonjour.
Bonjour, bonjour, Monsieur Arcand.
Avant de parler de ce qui s'en vient dans le futur, là, on va parler de ce qui est arrivé hier, par exemple. Premier constat, la neige qui est là ce matin, elle sera pas ramassée.
Non, elle va fondre.
Elle va fondre, ça on s'entend, c'est parfait.
Ouais.
Pourquoi la Ville n'a pas fait sa job hier, dans la nuit, au début de la journée, alors que les rues étaient glissantes, les trottoirs étaient pas dégagés, que c'était un cauchemar pour bien des Montréalais?
Ça, c'est une responsabilité d'arrondissement.
Ça, c'est trop facile à me dire. Là.
Ben, je le sais, parce que votre invité hier a dit que c'était la Ville qui déclarait ça. Mais quand la neige tombe, puis il faut déblayer, là, c'est la première activité là, d'activité de la neige, là. Mais c'est tous les arrondissements qui ont leur équipement puis qui sortent aussitôt qu'il y a de la neige sur la rue. Ils doivent sortir déblayés.
OK, ils doivent, mais ils ne font pas.
Ben, ils font aussitôt qu'ils peuvent. Hein. Ils ne peuvent pas nettoyer tout de suite. Okay. En tout cas, ça prend une journée, ça prend deux journées pour ramasser 15 cm.
Je ne parle pas de ramasser, je ne parle pas
de déblayer.
Je parle de faire une job minimaliste. Je parle juste de s'assurer que les rues de Montréal sont praticables, que les rues en pente ont été au moins visitées une fois, que les trottoirs... Hier, Urgence Santé informait les paramédics qu'il n'y avait pas d'abrasif dans les rues de Montréal puis que c'était dangereux, puis d'être prudent. Ça, c'est la faute de qui? De l'arrondissement, de la ville?
Je veux dire, tout le monde fait son possible. Quand il tombe pendant la nuit, là, on sort quand on peut et on commence. Mais il y avait quand même beaucoup de neige, 15-20 cm.
Mais on le savait.
Ben oui, mais on sort, mais on peut pas
on
tout
vous a
faire.
Pas vu.
On était là.
Où?
On était là.
Vous étiez où?
Tous les arrondissements sortent leur équipement de trottoir, sortent leur équipement de rue et des blés. On fait ce qu'on peut, M. Arcand. On peut pas tout faire en même temps, malheureusement.
Non,
il y a quand
vrai,
même
ça.
Eu beaucoup de neige.
C'est pas vrai ce que vous me dites. Je vous donne l'exemple, Rosemont.
Oui.
Un sous-traitant avait de l'équipement disponible. Personne ne l'a appelé. Ça veut dire ça vaut de l'arrondissement.
Monsieur Arcand, je connais pas les détails de Rosemont.
Okay, mais s'il y a des entrepreneurs qui ont des contrats avec des arrondissements et qui n'ont pas été appelés pour faire la job, c'est la faute de l'arrondissement.
Bon, en tout cas, je suis pas ici pour blâmer toute personne.
Non,
parce
mais pourriez-vous
que
juste donner aux Montréalais qui paient pas mal cher de taxes, oui, là, le score, comme on dit. La ville a décidé et les arrondissements ont décidé hier de pas faire de sortie préventive. Ou d'y aller au minimum.
Bon, on peut pas sortir quand il pleut. Ça sert à rien quand il pleut. On est sorti quand il commençait à neiger. Quand il neige, on sort.
Pourquoi vous me dites pas la vérité? Pourquoi vous me dites pas que les budgets de la ville sont à sec, que vous voulez couper dans le déneigement puis réduire la qualité du service?
Non.
Ça serait au moins honnête.
Ça, M. Arcan, si on veut parler de ce qui s'en vient.
Non,
là,
on va y venir dans quelques instants.
Bon.
Moi, je veux régler le cas. Je veux savoir pourquoi, comme payeur de taxes à Montréal, c'est un service merdique qui a été offert hier. Avez-vous une réponse à ça?
Monsieur Arcan, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que tous les arrondissements ont sorti l'équipement qu'ils avaient et ils ont commencé à déneiger, puis les contrats étaient encore en cours. À chaque tempête de neige, quand on a 5 à 20 centimètres, c'est pas déneigé le matin. Ça prend une journée, deux journées des fois pour passer par 20. OK, ben en tout cas,
Est-ce que hier, ce sont, en termes de nombre,
oui,
la même quantité d'équipes qui sont sorties, le même nombre de véhicules que si ça avait été au mois de décembre?
Moi, j'ai pas le contrôle là-dessus. J'ai pas fait le calcul.
Donc, vous pouvez pas me répondre vraiment.
Moi, je peux pas vous répondre parce que ça dépend de chaque arrondissement, de comment ils ont sorti. Puis, j'ai pas le chiffre de chaque arrondissement.
Ça vous intéresse pas à la Ville-Centre de savoir comment travaillent les arrondissements? Vous êtes pas capable de me dire.
Il y a pas.
Madame Plante est venue autrefois avec un tableau. Oui. Arrondissement par arrondissement, parce que c'est extrêmement variable d'un endroit à l'autre.
Oui.
Mais là, ce matin, vous n'avez rien à me dire là-dessus.
Monsieur Arcan, moi, je n'ai pas les chiffres de quel équipement est sorti dans quel arrondissement hier. Je n'ai pas fait le décompte.
OK. Là, l'opposition qui était ici hier,
oui,
m'explique que vous êtes en train de couper dans les services, que ça prend, mettons, 3 jours dans un arrondissement pour ramasser la neige et que le plan que vous proposez, c'est 4 jours.
Ça, M. Arcan, c'est complètement faux, puis vous pourrez regarder notre politique. Là, il parle d'une politique qui n'a pas encore été adoptée.
OK, mais qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que vous voulez faire?
L'objectif de notre politique, c'est justement de mettre l'accent là où ça compte. Là où ça compte, c'est les trottoirs. Les gens veulent qu'on s'occupe des trottoirs. Et c'est ce qu'on va faire. Puis on change les choses pour qu'on puisse mieux s'occuper des trottoirs. On change aussi notre politique pour mieux s'occuper des artères principales pour les automobilistes, que ça soit déneigé rapidement et efficacement. Puis la troisième chose qu'on change, c'est pour s'attaquer davantage et plus rapidement au débarcadère pour les personnes à mobilité réduite. Puis on fait un grand changement dans la politique. Puis l'opposition en a pas parlé, mais c'est de déclarer que les chargements peuvent être partiel. Alors, si vous voulez, je peux vous l'écrire. OK,
attendez,
je vous laisse parler.
Non, non, mais je veux juste comprendre, okay, parce que c'est beaucoup de choses. Là. Donc,
oui,
si vous faites tous ces changements-là,
oui,
pour les trottoirs,
oui,
pour les grandes artères,
oui,
si vous admettez que le service actuel n'est pas bon?
On s'admet que le service doit être amélioré.
Okay.
Parce que dans la situation des changements climatiques, il y a des choses qui changent, puis on s'adapte. Puis c'est ce que je voudrais vous expliquer.
Oui,
vous
juste,
raconter.
Mais l'histoire du 3 jours actuel,
oui,
puis que ça passe à 4 jours, c'est vrai ou faux?
Là, je vais vous expliquer parce que c'est pas
juste,
la
c'est
politique.
Vrai ou faux?
La politique ne change pas.
Le nombre de jours change-t-il?
Le nombre de jours ne change pas.
Mais ça vient d'où,
la
ça,
politique,
3 à 4 jours?
Ça vient du fait qu'on va changer comment on charge la neige. Maintenant, je vous explique. Le chargement, maintenant, va être partiel. Avant, là, ça avait un peu pas de bon sens. Avant, on disait, on avait un charge. Quand la ville déclarait le chargement, disons, il y avait 10 cm de neige, on disait go. Mais c'est pas égal partout. C'était pas, disons qu'il n'y avait pas de neige à la Chine. Il y avait peut-être 3 cm de neige à la Chine, puis il y en avait 15 dans l'Est. Là. Bon. On faisait le chargement de neige partout, puis c'était sur 5 jours. Puis imaginez-vous s'il commence à pleuvoir, hein, ce qui nous arrive, là, il pleut à Sio. Puis là, la neige qu'il y avait, ben, il n'y en a plus 10 cm, on est rendu à 4 cm. Mais notre contrat disait il faut déneiger, il faut ramasser la neige pareil jusqu'à la fin. Ça n'avait pas de bon sens. On perdait de l'argent comme ça, là. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est si on voit qu'il pleut, ben on dit on arrête, comme en janvier. Là on peut dire stop le chargement. On s'occupe des trottoirs. Parce que 4 cm de neige là, sur le bord, on peut quand même se stationner. Mais les trottoirs deviennent des marécages puis ils vont geler pendant la nuit. C'est ça notre priorité. Alors on s'adapte à ça.
Attendez, juste comprendre.
Okay.
Ça, ce que vous me dites là,
oui,
vous pouviez pas le faire cet hiver.
Non, on pouvait pas.
Pourquoi?
Parce que notre politique disait que quand on déclare un chargement...
Ça ne change pas en cours de route, c'est une politique. Vous n'avez pas le droit de dire arrêtez le chargement.
Parce qu'on a donné un contrat pour 4 ans. On a donné un contrat pour 4 ans à des entrepreneurs. Alors, il y a des choses qui changent, M. Arcand, mais il y a des choses qu'on s'est dit, ben, dans notre politique, puis on le voit au fur et à mesure, on le voit avec la température qui change, puis les choses qui changent. C'est une politique qui était, c'était récente. Alors, on l'a améliorée.
Moi, ce que je vois, là, je vais vous dire ça, là, je vois les arrondissements dans un coin, puis je vois la ville-centre. Je paye des taxes aux deux, là.
Oui.
Puis je vois les deux entités se pogner pour savoir qui va donner le feu vert au camion, qui va rappeler le troc, qui va faire en sorte le trottoir...
On le fait pour l'efficacité. Quand on donne le go, on veut donner le go pour l'ensemble de la ville. On peut pas avoir... Puis l'autre chose qu'on change, c'est les limites des territoires. On veut donner un contrat... Par exemple, sur une artère qui traverse 4 territoires, qu'est-ce qui est le plus important? Respecter la limite entre Rosemont ou le plateau ou respecter que l'artère soit faite de manière efficace? Puis neuf, c'est ça qu'on a fait. On a donné un contrat pour l'ensemble de l'artère. Un contrat et pas 4 contrats. On essaye de éliminer les choses qui rendent le déneigement difficile en changeant notre politique.
Vous comprendrez que la crédibilité de la Ville de Montréal sur cette question-là est pas très forte. Vous pouvez me faire toutes les promesses, les beaux engagements, là, mais c'est un hiver là de mauvais services qu'on a eu pour toutes sortes de raisons. Puis sérieusement, là, je pense que les gens sont un petit peu exacerbés, puis tannés, puis se foutent des affrontements de juridiction. Tout ce qu'ils savent. Les trottoirs étaient dégueulasses cet hiver dans plusieurs arrondissements. Ils savent que hier, les rues n'ont pas été entretenues de façon correcte au début de cette grosse bordée de neige qui était prévisible. Là, vous me faites des promesses pour l'automne puis l'hiver prochain. Tant mieux.
C'est pas des promesses. C'est des changements dans notre politique.
Mais c'est tellement lourd, la Ville de Montréal.
Oui.
Il pleut, ça vous prend un comité spécial pour déterminer si le contrat s'applique ou pas. Sérieusement, là. Bon, on va reprendre les propos de votre parole.
Ben,
c'est
allez-y.
De l'inexpérience ou de l'incompétence?
On s'améliore à chaque année, M. Arcand. À chaque année.
Et boy.
Ben oui. ben je veux dire, je pense que il y a jamais. C'est difficile vivre dans un pays nordique. Et c'est difficile vivre dans un pays où il y a fait plus 15 puis moins 15 dans 2 jours de différence. C'est vraiment difficile. Puis souvent, dernièrement, là, ça oscille autour de 0. Quand tu fais plus 2, ben là, tout va fondre. Quand tu fais moins 2, tout gèle. Puis on ne sait pas s'il va neiger ou s'il va pleuvoir quand c'est autour de 0. Puis on ne peut pas mettre du sel avant. C'est quand même les choses, la manière dont on gère le trottoir et la rue est différente selon s'il fait plus 1 ou moins 1. Puis il faut deviner. Puis on fait le mieux qu'on peut avec la température qu'on a. Mais on a tout l'équipement et on a tout le monde prêt à agir. Mais on peut pas faire... On fait à chaque année le mieux qu'on peut, puis on s'améliore pour l'année prochaine. Puis ce qu'on fait avec notre politique, on veut s'améliorer.
On va voir, comme dirait l'autre.
Mais merci beaucoup.
Dites-moi pas que vous êtes contente d'être venue ce matin, je vous croirais pas. Là.
Ben là, je suis toujours contente de vous parler, M. Arcand.
Merci, bonne journée.
Merci, au revoir.
Maya Vodanovic, qui est la responsable de la concertation avec les arrondissements, donc pour la Ville de Montréal.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, on sait que l'Ozempic est extrêmement populaire. Ça amène des ruptures de stock chez les pharmaciens. C'est prescrit pour les gens qui souffrent de diabète de type 2 ou encore des gens qui veulent perdre du poids, sauf que dans ce cas-là, ce n'est pas couvert, en tout cas jusqu'à maintenant. Il y a un débat sur la question. La presse a fait enquête et il est possible d'acheter via une plateforme de cybermédecine de l'Ozempic et d'une façon assez, je dirais, simple, pour ne pas dire autre chose, avec nous Alice Girard-Bossé, qui est journaliste à la presse. Alice, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Alors, racontez-nous d'abord comment on fait pour trouver de l'Ozempic aussi facilement et s'en procurer.
Oui, donc tout à fait. Ce sont les publicités sur les réseaux sociaux qui ont attiré notre attention. Donc, c'était écrit que la perte de poids devient plus facile accompagnée d'une image du médicament Ozempic et du nom de la plateforme Livewell. C'est une plateforme, comme vous l'avez dit, là, de télésanté québécoise. Donc, on a qu'à répondre à quelques questions pour y arriver. Donc, de notre côté, on a fait croire que je pesais 160 livres et que je mesurais 5 pieds 2. Au départ, notre demande a été refusée. Donc, on nous a demandé, invité à corriger nos informations, là, notre poids, notre taille, au cas où on se soit trompé. Donc, on en a profité pour modifier notre poids à 175 livres, en précisant qu'on avait comme objectif de perdre là, entre 10 et 25 livres. On a choisi une fausse photo là, de mon corps sur une banque Internet libre de droit. Puis ça a fonctionné. Là. Donc, on a eu accès à la suite du formulaire. Ça a été très rapide. On a répondu à quelques questions de santé, puis payé un montant de 99 $ pour avoir la prescription par une infirmière praticienne spécialisée, là, une IPS.
OK, ça, c'est important. Là. Vous n'avez pas vu de médecin, pas parlé à un médecin au téléphone, pas de contact avec un médecin. C'est une infirmière. Est-ce que vous avez parlé avec elle?
Pas du tout. Dans tout le processus, là, on n'a jamais eu à parler à un médecin, une infirmière ou à un pharmacien. Là. C'est justement ce qui a inquiété les professionnels de la santé là, à qui on a parlé.
Mais donnez-moi un peu plus de détails. Vous dites, il y a un formulaire, on nous pose des questions, on peut ajuster les réponses pour être bien certain qu'on va avoir l'Ozempic au terme de la consultation. Mais est-ce qu'on vous demande un accès à votre dossier médical? Est-ce qu'on sait vraiment à qui on a affaire? Ou c'est vraiment, là, je me crée un personnage et je reçois le médicament?
Dans le fond, on a à mettre sa carte d'assurance maladie. Par contre, mon collègue, le Charles-Éric, a reproduit l'expérience. Lui, a changé sa date de naissance pour voir justement si l'entreprise vérifiait nos informations personnelles. Puis, finalement, il n'y a eu aucun problème. Il a reçu la prescription dès le lendemain avec sa date de naissance fictive.
Bon, vous avez parlé avec les ordres professionnels concernés, là, le Collège des médecins et autres. Qu'est-ce qu'ils disent de ça?
Ils sont choqués, ils sont pris par la situation, là, parce que ce qu'ils disent en général, c'est que normalement, une rencontre avec un patient, ça dure en général 30 à 45 minutes. Là. Faut vraiment prendre le temps de vérifier là, est-ce que c'est vraiment le besoin du patient, est-ce qu'il y a des contre-indications, est-ce que surtout c'est le meilleur médicament, parce que ça peut venir avec des effets secondaires quand même, le médicament Ozempic. Donc, même que dans un monde idéal, les patients qui prennent Ozempic sont suivis par une équipe multidisciplinaire, donc une nutritionniste, notamment, là, qui peut s'occuper tout du volet alimentation, ce qu'on ne retrouve pas là, avec la plateforme Livewell.
OK, merci, c'est intéressant. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Alice Girard-Bossé, qui est journaliste à La Presse. On a appris donc hier que pour aller aux îles de la Madeleine à compter du 1er mai, les visiteurs, les touristes, devront payer un montant de 30 $ avec un maximum de 100 $ pour la famille. Le maire des îles est avec nous, Antonin Valiquette. Monsieur Valiquette, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Ce que je comprends, ça a été un débat ou en tout cas une discussion aux îles qui a duré quoi, plus d'un an avant d'arriver à cette décision-là?
Oui, ben ça fait plusieurs mois, ça fait un an et demi en fait que le conseil municipal et de la communauté maritime a annoncé son intention d'adopter à l'époque un premier projet de règlement. Et depuis ce temps-là, l'équipe administrative et l'équipe du conseil et moi-même depuis mon élection, on travaille fort là-dessus. Il faut savoir que c'est pas simple de monter un règlement comme ça, surtout quand que c'est une première, un peu c'est la première forme de redevance dans le contexte de la passe archipel, de redevance réglementaire permise depuis 2017 par le gouvernement. Mais on estime que les motifs sont nobles, que les motifs sont justes et que les bénéfices vont valoir la peine non seulement pour les Madelinots, mais d'abord et surtout pour les visiteurs.
OK. L'argent va servir à quoi?
Ben, tout dépend de ça, c'est ça que je veux dire. C'est l'argent va servir à quoi, dans le fond? Elle va servir à offrir des services et des infrastructures écotouristiques de qualité sur un territoire fragile. On va créer le fonds de gestion durable du territoire. Et je pense que c'est le meilleur service que la municipalité peut rendre à l'industrie touristique, notre deuxième pilier économique aux îles de la Madeleine, c'est de se monter à la hauteur dans notre rôle d'offrir des services et des infrastructures publiques de qualité. Donc, on parle d'affecter l'argent du fonds de gestion durable du territoire exclusivement sur la gestion des matières résiduelles qui subit une pression par l'affluence de nombreux visiteurs durant la période estivale. On parle de préservation d'un territoire fragile, notamment avec la création d'un parc régional qui va couvrir et coordonner concilier les usages en terre publique, incluant nos plages. Et on parle d'entretenir et de bonifier nos infrastructures écotouristiques qui profitent à l'ensemble, et aux visiteurs, et aux Madelinots. Et ça, on va être capable de le faire sans alourdir le fardeau fiscal de nos citoyens.
OK, mais si je résume, là, ça veut dire vous recevez beaucoup de monde sur une courte période de temps, puis ça laisse une empreinte. Deux, vous n'avez pas aux îles à payer pour tout ça. Là, c'est pas vrai que les Madelineaux vont assumer la totalité de la facture. Puis en même temps, vous voulez préserver puis aménager des espaces. Puis on connaît tout le phénomène de l'érosion des terres puis protéger les espaces. Il y a une volonté très claire là de faire que le tourisme soit aussi compatible avec, disons, la protection de l'environnement.
Ben, tout à fait. C'est un fonds de gestion durable du territoire. Puis, veut pas une affluence de visiteurs. On parle entre 60 et 70 000 visiteurs par année sur un archipel qui compte 13 000 habitants. Donc, il y a une pression, veut pas, sur les services et, comme vous le dites, sur l'environnement, sur le milieu. Et pour préserver et offrir une qualité de visite aux gens qui viennent nous voir et qui on le reconnaît très bien, amène une de grandes retombées et qu'on est heureux de voir visiter nos îles de la Madeleine. C'est un grand sentiment de fierté pour les îles de la Madeleine d'être une destination touristique aussi agréable et avoir une aussi bonne réputation à l'échelle du Québec. Donc, comme vous dites, il y a une question de préservation de l'environnement également.
Okay.
Avec les infrastructures, notamment que ce fonds-là va servir à financer.
OK. Ça va marcher de quelle façon?
En fait, il va y avoir une plateforme de paiement en ligne où les visiteurs vont pouvoir, sur laquelle les visiteurs vont pouvoir se rendre, payer leur redevance. Cette plateforme de paiement en ligne-là va générer un code QR qui leur sera envoyé par courriel et ça va agir en guise de preuve de paiement. Donc après ça, à la sortie du territoire, ça pourra faire l'objet de vérifications pour s'assurer du paiement parce que c'est un règlement municipal qu'on a adopté. Donc, c'est pas une contribution volontaire pour utiliser, dans le fond, pour se servir des pouvoirs que le gouvernement du Québec a donné aux villes en 2017 par le biais de la loi sur les cités et villes. Il faut marcher par règlement et il faut encadrer une telle mesure, une telle initiative. Donc, c'est pas une contribution volontaire. Donc, c'est ça.
Ce que je comprends, c'est que j'achète, je paye le 30 $ ou le 100 pour la famille, là, avant de quitter pour les îles. Puis, une fois sur place, il y aura des vérifications pour être certain que les gens ont payé.
Vous pouvez le faire pendant votre séjour aux îles de la Madeleine aussi.
C'est, okay.
Oui. C'est, la vérification ne se fait pas avant votre départ des îles de la Madeleine. Parce que, justement, ce type de redevance-là, de la façon dont on le fait, ben, on profite un peu du fait qu'on est une île. À l'instar de plusieurs autres îles d'à travers le monde, des destinations touristiques insulaires, où de telles redevances ou de telles pratiques sont tout à fait courantes, là. Donc, vous pouvez être sur le territoire des îles de la Madeleine. À partir du 10 avril prochain, mercredi, on va avoir adopté le règlement en tant que tel. Donc là, va se lancer la campagne de marketing, d'information publique. Et à partir du 1er mai, la mise en vigueur de la redevance, parce qu'il faut savoir aussi qu'elle ne s'applique pas à l'année longue, cette passe archipel. Il faut, on parle d'un visiteur de 13 ans et plus qui séjourne aux îles pour un séjour de plus que 24 heures. Et qui quitte les îles après son séjour entre le 1er mai et le 14 octobre. Donc, on a...
C'est une période très claire.
Ouais. C'est ça, quand on est aux îles, on peut, durant votre voyage, ça va être visible, ça va être affiché, on peut se prévaloir, on peut aller chercher sa passe archipel pendant notre séjour aux îles de la Madeleine, il n'y a aucun problème avec ça.
Merci, M. Valiquette. Bonne journée.
Merci,
au revoir. Antonin Valiquette est le maire des îles de la Madeleine.
C'est 23.